Être une anguille, c'est être une grande voyageuse.
Comme nous, les carpes de Loire.
Nous sommes des écrevisses, et nous sommes nés ici.
Je ne suis qu'une petite éponge lacustre.
Ah, 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 c'est moi le cormoran.
On est des Silurus glanus, nous.
Oh là là, ça mord, là.
La chronique de Loire sont des contes sonores et documentaires qui donnent la parole à ceux qui peuplent la Loire et ses bassins versants. Un podcast produit par le Polo, Pôle Art et Urbanisme. Chronique 2, le voyage d'Anguilla, le barrage et le silure.
Une chronique de Loire basée sur des faits réels.
C'est vrai, tout est vrai.
Dans le lit mineur de la Loire, à quelques centaines de kilomètres de l'estuaire, il y a déjà des îles, des bancs de sable, des vestiges de ponts écroulés, des souches immergées et des pots de départ.
Anguilla, Anguilla, Anguilla.
Amis de longue date, voisins, prédateurs, proies, habitants de l'onde, avec qui nous partageons ce bras d'eau cher à nos cœurs
et à nos estomacs.
Oh, chut, taisez-vous, madame Lacarpe. Merci d'être là, à ce pot de départ. Et malgré les conflits d'intérêts qui parfois émaillent nos cohabitations...
Excusez-moi, tout le monde a mangé, n'est-ce pas?
Oui.
Sinon, on annule tout, hein. Moi, je m'en vais. Hein.
Non, restez. Tout le monde adore les écrevisses.
Mmh. Ah oui, c'est délicieux.
Bien. D'aucuns parmi vous auront peut-être remarqué quelques changements récents me concernant. Des changements physiques.
C'est vrai qu'elle a grossi. Des yeux surtout. Moi, je trouve qu'elle est moins jaune, non? Elle commence à tirer vers l'argentée.
Oui, comme une sardine.
Oui, il est temps pour moi d'entamer ma dévalaison.
Dévalaison?
Vous savez, être une anguille, c'est être une grande voyageuse.
Et voilà, ça y est, elle se la paie.
Chut! Et bien qu'installée dans ce coin depuis plus d'une dizaine d'années, certains d'entre vous m'ont toujours connue ici, je n'y suis pas née.
Oh, c'est une étrangère. J'en étais sûre, elle a comme un accent.
Et c'est à plus de 6000 kilomètres, dans cet océan qui vit mes premiers jours, que je dois aujourd'hui retourner. Je dois aller me reproduire.
Bravo!
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 Au bout de 3 ans, pour un certain nombre d'individus, voire jusqu'à une dizaine d'années pour d'autres. C'est la phase en fait de croissance en eau douce et notre animal est toujours un juvénile. Hein. Il n'a pas encore de gonades mâles ou femelles qui sont développées. Au bout de ces 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12, la maturation sexuelle va intervenir et nos anguilles vont subir encore une transformation qui va leur permettre en fait de retourner vers la mer. Cette transformation, ça va se traduire par une peau qui va s'épaissir, qui va se transformer en couleur, qui va passer de blanc-jaune sur le ventre à gris clair et de jaune-vert sur le dos à gris foncé. Une autre modification, c'est une augmentation du volume des yeux. Et on en a encore une autre, ce sont les nageoires pectorales, donc la première paire de nageoires, qui vont s'agrandir. Tout ça, en fait, c'est pour préparer l'animal à son grand trajet transatlantique.
Je vous avais dit qu'elle ressemblait de plus en plus à une sardine avec sa robe argentée.
Elle a un accent, c'est sûr. Ah, oh, c'est pas une autochtone.
J'entends qu'on parle derrière ma queue, madame la carpe. Nous sommes des écrevisses et nous sommes nés ici. Nous sommes des autochtones.
Ah non, pas du tout. Vous êtes des écrevisses américaines. Vous êtes une espèce invasive.
Oh!
Moi, qui suis une écrevisse à pattes blanches, regardez. Moi, je suis du coin.
Comme nous, les carpes de Loire.
Ah non, vous les carpes. Vous êtes originaire d'Eurasie, mais vous êtes arrivés avec les Romains, donc...
Ah bon? Mais c'est horrible. Je suis une vraie ligérienne, moi.
T'es américaine, écoute-toi.
Mais non, je suis ligérienne, moi.
Bon, ligérienne américaine avec un accent anglais, si tu veux.
Oh, le cormoran.
C'est moi le cormoran. Calmez-vous, je viens de manger. Bonsoir.
Voilà ce que c'est de vouloir réintroduire à tout prix des espèces autochtones, n'importe comment, comme ça.
Espèce invasive, intrusive, autochtone, étrangère. Combien d'autochtones ici? Levez la main. Oh. Combien de réintroduits? Artificiellement?
Il y va fort.
Par nos activités, on va introduire des espèces exotiques. Et c'est un enjeu qui est effectivement très très important parce que ça peut avoir des enjeux, enfin ça a des enjeux, des conséquences sur la biodiversité, ça peut avoir des conséquences de manière directe ou indirecte sur nos activités humaines, par exemple de production agricole, de santé, etc. Donc c'est vrai que l'enjeu des espèces invasives, c'en est un, quoi, hein, et qui peut être très 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 important, quoi.
Je ne suis qu'une petite éponge lacustre, mais nous ne sommes pas là pour des querelles de voisinage. Même si nous voyons à quel point il est difficile de cohabiter, nous sommes ici ce soir pour saluer Anguilla et lui souhaiter bonne chance pour son grand voyage.
Elle a raison!
Foin de querelles de territoire, pensons plutôt terroir. Voilà, un terroir, ça se partage et...
Et ça se déguste!
Bon! Allez, moi, je ne peux pas rester beaucoup plus de 2 minutes sous l'eau. Au revoir, belle Anguilla, bon voyage. Je filme sécher les ailes.
Regardez, il a laissé un bouquet de fleurs jaunes.
Ah, oui, ça c'est de la jussie. Une espèce invasive qui assèche les petits cours d'eau.
Quel gentleman, ce cormoran.
Blanc, blanc, blanc. Merci à tous, je dois y aller. Blanc.
Espèce endémique, espèce dont la présence naturelle, sans intervention de l'homme, se cantonne à une région géographique spécifique, de par des facteurs climatiques, pédologiques, écologiques, etc. Autochtone ou indigène. Une espèce est définie comme indigène ou autochtone à une région donnée si sa présence dans cette région est le résultat de processus naturel ou culturel, on ne sait plus, sans intervention humaine. Espèce invasive. Une espèce invasive, aussi appelée espèce exotique envahissante, a plusieurs caractéristiques. Elle est exotique, elle est introduite dans une autre région du monde, elle devient envahissante, elle prend la place d'espèces locales, ou en tout cas beaucoup plus de place. Elle est plus compétitive que les espèces locales, où elle ne possède pas de prédateurs naturels dans cette nouvelle région. Elle met fortement en péril la biodiversité locale et les habitants naturels. Mais il ne faut pas confondre espèce invasive et espèce envahissante. Une espèce envahissante est une dénomination à réserver aux espèces locales, donc autochtones ou indigènes. Les envahissantes ont un fort pouvoir de colonisation. Vite, 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 elles croissent, elles se multiplient très rapidement. On les connaît bien, les malines. C'est par exemple les orties, les ronces, les liserons.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je passe où, moi, là? Avec toute cette lumière, un soir de pleine lune en plus, c'est pas la peine d'allumer comme ça. Oh, j'y vois rien. Ah, il y a mes yeux. Ma queue!
Nos anguilles, elles peuvent venir de très loin. Elles peuvent faire plusieurs centaines de kilomètres à l'intérieur des bassins versants. Si sur la route, on a réussi à franchir un barrage à l'aller, mais qu'au retour, il n'y a pas de quoi descendre et que la seule solution pour descendre, c'est de passer dans les turbines, ça peut faire du pâté d'anguille. C'est ce qui se passe à certains endroits. Hein. D'où tous les outils d'amélioration de la continuité écologique qui ont été développés dans le cadre de, entre autres, du SDAGE, hein, en application de la directive cadre sur l'eau, et qui sont très fortement, on va dire, mis en avant dans les plans de gestion des poissons migrateurs.
Ah, me revoilà dans le lit principal. Là, juste en amont de la centrale, le courant m'apporte leur parole. Une famille de silures. Je l'échappais belle.
Alors, le bon spot, il est là, mon chéri. Tu vois la centrale? Et c'est ici que ça se passe, à la sortie de la passe à poissons.
Ah ben oui, au lieu de faire fouiller dans la vase, c'est plus pratique.
Voilà. On est des Silurus glanus, nous. On glane, on est opportuniste.
Opportuniste?
Ça veut dire intelligent, en gros, hein? On s'adapte.
Ouais, nous, c'est tout dans la tête, hein?
Oh, ben oui, c'est vrai qu'on a une grosse tête, elle fait un tiers de notre poids.
Le silure, c'est typiquement une espèce exotique. Un poisson exotique. Exotique dans le sens, il n'est pas... Ouais, depuis les dernières glaciations, grosso modo, il a disparu de l'Europe de l'Ouest. Mais il est resté présent pendant la dernière glaciation, au moins dans le bassin du Danube. Et suite à ces glaciations, et suite au réchauffement, et suite très récemment aux créations de canaux entre les différents bassins versants, eh bien, les espèces animales ont emprunté ces canaux. C'est assez logique. Vous ouvrez des voies de déplacement, des voies de migration que les espèces ont empruntées. Donc le silure, il s'est propagé du bassin du Danube au bassin du Rhin via un canal entre le Danube et la rivière Main, ensuite du Main dans le Rhin, et puis après, on a tout un réseau de canaux dans le nord-est de la France qui communiquent entre eux, donc le poisson, il peut circuler là-dedans. La deuxième source d'arrivée du silure, on va dire en Europe de l'Ouest, c'est les transferts par les humains, évidemment, à deux fins. Une fin d'aquaculture et une fin de loisir-pêche.
Alors, tu vois, mon chéri, écoute, mamie, arrête de t'agiter. On est au sommet de la chaîne alimentaire. Mais. Avant, c'était le brochet. Alors, quand les poissons étaient très gros, ils ne pouvaient pas le manger. Mais nous, on a qu'à ouvrir notre grande bouche et...
Après, on fait la sieste à l'abri avec sa mamie. On se laisse caresser par le courant, le soleil, les algues.
Allez, serre-toi de tes barbillons. Hein. T'en as 6 avec des bourgeons gustatifs, alors tu t'en sers. Voilà. Tu dois être capable de repérer une écrevisse à 10 mètres. Hein.
Ouais, il y a des saumons qui arrivent. Chope, mamie.
Les silures vont utiliser le goût odorat grâce à leurs longs barbillons. Hein, ils en ont 2 très très longs et puis une autre paire un peu plus courte, mais beaucoup avec ça. Ils perçoivent, alors comme les autres poissons, hein, aussi les vibrations, mais les barbillons, ça sert aussi à percevoir les vibrations. Et ils développent des comportements sociaux, hein, ils vivent en banc. Dans les habitats refuges, au moins en été, ils sont soit par binôme, soit par effectif un petit peu plus important, et ils ont vraiment des contacts physiques entre eux. Hein. Ils se touchent, ils se côtoient, ils se frôlent, ils ont vraiment des contacts physiques entre eux.
Oh là là, ça mord là! Il y a un silure qui a mordu là!
C'est fou, je reconnais rien. Tout a changé. Les bancs de sable ont bougé. Ça fait tellement longtemps. Ah, si, ce pont, ça me rappelle quelque chose. Oh, j'avais bien galéré pour le remonter. Et juste avant, il y avait une île par là. J'avais. Ah oui, maintenant, c'est un espèce de morceau de bois. Je crois qu'on appelle ça une épave à la surface, ils appellent ça comme ça. Oui. Ah, j'ai mal à mon abdomen.
Bonsoir.
Ah bah dis donc, il y en a du monde là-dedans. Allez ma grande, allez, en route. Ça devrait pas tarder à goûter l'eau salée. là là, cet estuaire. J'ai des mauvais souvenirs.
Regarde-moi ça, tous ces petits albins, là. Passe le tamis.
Je vois rien.
C'est normal, c'est une nuit sans lune. T'es con ou quoi? Éteins ça, là. Tu vas nous faire repérer.
Ah, Berbin, c'est tout gluant. On dirait des pattes d'œil. C'est quoi? C'est des bébés anguilles?
C'est de l'or blanc, ça, mon petit Benoît. Ça part à 500 le kilo.
Chut. T'as entendu quelque chose?
Chut. Le moteur. On lâche tout!
Ainsi Anguilla se lança, à l'assaut de l'océan, direction les lointaines sargasses. Quittant les côtes, elle commença de s'enfoncer d'un premier palier dans les profondeurs marines, réglant sa vessie natatoire, gorgée d'air comme un petit ballon pour résister à la pression. Bon voyage, belle Anguilla.
Oh mais c'est pas vrai, me dis pas que c'est pas vrai.
Oh toi.
Ah tu l'as dit.
Ah, on était des civelles à l'époque. Ah, ça fait quoi? Ça fait 13 ans, 18 ans. Mais t'arrives d'où, toi?
Ah bah figure-toi qu'avec le courant du Gulf Stream qui dévie, avec leur changement climatique, j'ai rien pu faire. Je me suis retrouvée sur les côtes écossaises. Ah bah c'était la première fois qu'ils voyaient des civelles là-bas. Sidérés, ils étaient. Moi, j'ai eu un peu froid quand même au début.
Blop. Allez, on plonge.
Le réchauffement climatique modifie et a déjà commencé à modifier les courants marins, et notamment notre Gulf Stream. Il y a une branche du Gulf Stream qui s'en va, arrive, on va dire, vers l'Irlande et puis qui remonte vers le nord en contournant l'Écosse. Et cette branche-là, à un moment, visiblement, elle a été renforcée et les Irlandais et les Écossais ont vu arriver des tas de civelles. Et en parallèle, nous, on a vu une forte réduction d'arrivées de civelles sur les côtes atlantiques. Donc, si le Gulf Stream change de position, eh bien, nos anguilles, elles vont se retrouver distribuées différemment. Mais peut-être aussi dans des habitats où il n'y a peut-être pas toutes les capacités ou les ressources alimentaires pour pouvoir les accueillir, en plus de ce qu'il y a déjà naturellement, quoi.
Brassage planétaire, notion développée par le jardinier et paysagiste Gilles Clément. Le brassage planétaire, c'est le résultat d'une agitation incessante des flux autour de la planète. Vent, courant marin, déplacement des animaux et des humains. Les espèces se font trimballer dans tous les sens pour être constamment mélangées et redistribuées. L'homme est la seule espèce capable de franchir toutes les barrières climatiques à l'aide de ses nombreuses prothèses, habitats, vêtements, véhicules climatisés. Par contre, les plantes et les animaux n'ont ni caouet ni radiateur, plus compliqué pour se déplacer à l'infini. Le brassage planétaire, originellement réglé par le jeu naturel des éléments, s'accroît du fait de l'activité humaine, elle-même toujours en expansion. Vous avez dit anthropisation ? Le brassage planétaire menace la diversité spécifique par la mise en concurrence d'espèces d'inégale vitalité. Mais c'est aussi la naissance de nouveaux comportements, de nouveaux paysages et parfois aussi de nouvelles espèces. Le silure, que tout le monde a tendance à trouver moche, est-il plus attirant sous forme de rillettes bien cuisinées ? Seriez-vous prêts à parier sur un voyage sans encombre de notre héroïne de Loire et des Sargasses? Pensez-vous que si les écrevisses européennes et américaines, les silures et les brochets se serraient les coudes autour d'un syndicat des poissons et des crustacés de Loire, par exemple, cela aiderait les anguilles à vivre et se reproduire sereinement? Du délire? Et si une vague de naturalisation de masse s'abattait sur tous les vivants de la planète, Loire comprise? Que resterait-il de l'exotisme, des racines, de l'indigène et de l'étranger? Désormais, heureux de connaître le formidable voyage d'Anguilla, Anguille de Loire, interrogeons-nous. Sur quelle base pouvons-nous construire les échanges entre vivants sans marquer leurs différences? Un exotique ne devient-il pas indigène au bout d'un certain temps? Mais alors, au bout de combien de temps? Comment réussir à accepter l'altérité, c'est-à-dire ce qui est autre, sans distinguer les bons des mauvais? Les Chroniques de Loire permettent de diffuser, sous le format de contes sonores, un pan des recherches pour un Parlement de Loire initié par le POLO, Pôle Art et Urbanisme. Ces chroniques invitent les auditeurs et auditrices à s'interroger sur la complexité du fleuve, à mieux comprendre sa biodiversité, ses rôles, ses statuts, ses luttes. Elles ont été financées par l'Agence de l'eau, en charge du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et par la région Centre-Val de Loire. Cette chronique a été écrite et réalisée par Diane Bonneau, Julia Valvé et Tiphaine Sirio, de Tout Terrain. Elle n'aurait été possible sans les précieux échanges avec Virginie Serna, Bruno Marmiroli, Catherine Boineau et Clément Sirgue, la coordination d'Apolline Fluck, Clémence Mathieu et Annabelle Royer. Thomas G. a fourni les bruits de rivière et Guillaume Bernard a participé à la composition. Nous remercions l'ensemble de ces intervenants.